Bonjour et bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre du week-end Oser la récup. Nous allons maintenant avoir une petite conférence pour nous expliquer ce que c'est que les ressourceries, comment ça marche et quels sont les enjeux du recyclage, du réemploi des déchets. Je vais passer la parole à Delphine Terlizzi, qui est directrice de la Petite Roquette et qui va vous parler tout de suite. Merci.
Merci, merci d'être venus nombreux. J'espère qu'au fur et à mesure du discours, ça va faire venir un peu plus de gens. Venez, venez. Alors, qu'est-ce qu'une ressourcerie? Alors, comme elle vous l'a dit, je suis Delphine Terlizzi et je suis coordinatrice de l'association La Petite Roquette qui gère sur son territoire, dans le 11e arrondissement, donc rue du Chemin Vert, une ressourcerie, mais pas que. Mais le sujet du jour étant la ressourcerie, nous allons le limiter à la ressourcerie. Alors, on a préparé un petit document pour expliquer tout ça. Alors, la ressourcerie, c'est un lieu, premièrement, où on collecte les objets du quotidien. Donc, tous les objets qu'on a dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos jardins aussi. On collecte les objets, les matériaux, dont les propriétaires, les habitants donc, des villes, des villages, n'ont plus envie, n'ont plus besoin, n'ont plus l'utilité. Alors, ensuite, elle collecte toutes sortes donc d'objets. On a plusieurs catégories d'objets. Donc, tout ce qu'on retrouve dans une maison, bien sûr, est essentiellement un service aux particuliers. On travaille très peu avec les entreprises, c'est vraiment un service à l'habitant. Donc, on travaille évidemment sur la réduction des déchets, puisque ces objets qui sont amenés à la ressourcerie évitent du coup la poubelle. Et au réemploi et au recyclage des déchets. Alors, à proprement parler, chez nous, on ne fait pas du recyclage, hein, on fait plutôt du réemploi et de la réutilisation des objets, mais j'expliquerai plus tard, ce que ça veut dire exactement. Et évidemment, on a tout aussi des projets autour de l'animation et de l'éducation à l'environnement. Alors, elle a quatre fonctions principales qui sont assez faciles à comprendre. Donc, la collecte des déchets. Donc, il y a plusieurs types de collecte, on va le voir après. Il y a la valorisation de tous ces déchets. Là aussi, il y a plusieurs façons de valoriser les déchets. On va voir en détail à la suite. Ensuite, il y a la vente ou la redistribution de ces objets, hein, de réutilisation et de réemploi. Et pour finir, la sensibilisation à l'environnement et la réduction des déchets à travers de nombreux ateliers. Alors, on va commencer à rentrer dans le détail. Donc, on a la fonction collecte. Alors, il y a plusieurs types de collecte, hein. Soit les habitants amènent directement dans notre structure leurs objets. Donc, ça s'appelle la collecte par apport volontaire. On a aussi la collecte à domicile. Alors, pour les personnes un peu, qui ne sont pas à Paris, peu de gens ont des voitures et peuvent pas forcément se déplacer pour amener des choses. Donc, on va chez les particuliers, sur rendez-vous, où on vient chercher directement les objets chez eux. Ensuite, en déchetterie, vous savez aussi que parfois les gens se servent de la déchetterie pour déposer des objets dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui sont encore valables. Et donc, on peut collecter aussi les objets directement en déchetterie, à condition d'avoir l'accord, évidemment, de la collectivité avec laquelle on travaille. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Et on peut aussi, et ça se passe plutôt en province, c'est pas trop à Paris, la collecte en porte-à-porte. Donc voilà, c'est assez facile. Parfois, dans les petits villages où on est éloigné d'une déchetterie, eh bien, on peut aller directement chez l'habitant, frapper à la porte et dire « Est-ce que vous avez des choses à donner et à vous débarrasser ?» Ou alors donner des points de rendez-vous, hein, ça arrive souvent dans les villages, des points de rendez-vous, genre tous les mardis, tous les 2 mois, on vient sur la place du village et on vient collecter. Alors ça n'existe pas vraiment à Paris, mais en province, ça se voit beaucoup. Voilà. Alors, il y a une particularité à tous ces objets qui arrivent, c'est qu'évidemment, ils sont pesés. Alors, ça surprend toujours un peu les gens que les objets soient pesés, parce que quand on arrive chez nous, le premier objet qu'on voit, c'est une balance, une grosse balance. Nous, on pèse les objets qui arrivent. Et ces objets, si on les pèse, c'est pour une bonne raison, hein, parce qu'on ne se fatiguerait pas à tout peser par catégorie sinon. C'est pour, à la fin de l'année, pouvoir réaliser un bilan écologique pour calculer le nombre d'objets en kilos ou en tonnes, plutôt, qui a évité du coup la poubelle ou l'incinération et qui est arrivé chez nous. Et après, on peut, avec ça, calculer un taux de valorisation des déchets. Donc, la première chose, la première étape, c'est la pesée des objets. Et ensuite, ces objets sont triés par catégorie. Donc, on en a plusieurs, hein. Nous, à la Petite Roquette, on en a 8. Alors, je vais essayer de les énumérer sans en oublier une. Donc, nous avons les livres, nous avons la vaisselle, nous avons les objets électroménager, on a l'informatique, on a les meubles, on a la catégorie autres, parce qu'il y a des objets vraiment particuliers, bizarres, qu'on ne sait jamais où mettre. Le textile, bien sûr, qui est la catégorie la plus grosse. Et j'en oublie probablement les jouets et tous les supports médias. Voilà, tout ce qui va être CD, cassette vidéo, cassette audio, etc., etc. Voilà, ça c'était pour la première fonction qui est la collecte. Ensuite, la valorisation. Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, puisque une fois que tous ces objets sont arrivés, qu'ils ont été pesés, eh bien ensuite, ils vont dans les ateliers de tri et de valorisation. Alors, j'ai voulu remettre la définition du réemploi et de la réutilisation, parce que c'est des mots qu'on dit un peu comme ça. On utilise souvent le mot recyclage pour une ressourcerie. Encore une fois, ce n'est pas vraiment du recyclage qu'on fait. On envoie en filière de recyclage, mais nous, à proprement parler, on ne fait pas de recyclage. On fait du réemploi. Alors, le réemploi, c'est simple. Ça consiste à récupérer ou éventuellement à réparer un objet ou un produit sans modifier sa forme et sa fonction. Donc, une chaise arrive, on la nettoie, éventuellement on la répare et elle est revendue en tant que chaise. C'est simple. Ça, c'est le réemploi. Et c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est ce qu'on fait en priorité. Ensuite, la réutilisation, là, ça consiste plutôt à utiliser un objet ou un produit pour un usage différent de sa fonction initiale. Je prends, par exemple, un textile qui va arriver, une jolie jupe avec un joli motif, mais il y a une énorme tache dessus, donc on ne peut pas la vendre. En revanche, on va récupérer le textile, une partie de la jupe, et on va en faire un sac, une nappe, ou bien d'autres objets. Ensuite, le tri, bien sûr, dans ce qui arrive, il y a des choses qui sont quand même à jeter, à recycler. Donc on est bien obligé, la première des choses qu'on fait, c'est le tri. Et évidemment, le nettoyage. La plupart des objets qui arrivent, souvent, il y a juste nécessité de faire un petit nettoyage. Et hop, ça repart dans le circuit de la vente. La réparation, alors ça, c'est un peu plus lourd. On a surtout de la réparation, pas à tous les postes, hein, parce qu'on ne pourrait pas réparer, par exemple, tous les textiles qui arrivent, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein, c'est la majorité de notre collecte. Mais on va faire beaucoup de réparations, surtout sur l'électroménager, un peu sur l'informatique et sur le mobilier. Voilà, ça, c'est la principale réparation qu'on fait. Alors, on ne s'attarde jamais trop sur les réparations non plus, hein, parce que comme on a des prix très, très bas en boutique, eh bien, on passe... voilà. Alors, évidemment, si on a une belle armoire normande, on peut y passer 3-4 heures. Mais si on a un meuble... d'un grand magasin à l'enseigne bleue que je ne citerai pas, on va peut-être y passer 20 minutes, 30 minutes, et si ça ne vaut pas le coup, eh ben on le démantèlera, mais on n'y passera pas trop de temps. Voilà, la réparation, c'est des petites réparations, mais il y a quand même une bonne partie du stock qui est quand même réparée. Ensuite, on a le relookage et le détournement. Alors, nous, on le fait assez peu à la Petite Roquette, sauf à travers notre café-atelier, qui est annexe à la ressourcerie. Mais à l'intérieur, dans les ateliers, on le fait assez peu. Mais demain, je crois que vous avez la collecterie qui vient pour faire les pnoufs, qui est donc un vrai atelier pour le coup de détournement. Le démantèlement pour pièces, bah alors ça c'est assez simple à comprendre. Hein. On prend parfois un ordinateur et puis on va récupérer le ventilateur, on va récupérer des pièces à l'intérieur pour remettre dans une autre machine. Et ensuite, on a la valorisation matière. Alors ça aussi, c'est assez simple à comprendre. On a aussi, par exemple, les câbles électriques. Hein, quand le luminaire est complètement HS, qu'on ne peut pas le réparer, on va récupérer son câble et on va vendre la matière première, qui est donc le cuivre à l'intérieur, pour récupérer et de l'argent et éviter, évidemment, la poubelle. Voilà. Alors, évidemment, la troisième fonction d'une ressourcerie, c'est la vente et la redistribution. Alors, j'insiste un peu sur le mot redistribution parce que toutes les ressourceries ne font pas de la redistribution gratuite, mais nous, à la Petite Roquette, on fait beaucoup. Donc, c'était important de le dire. Donc, et on a une boutique. Hein. Alors, les boutiques, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Nous, on a une grande boutique à Paris, centralisée. Ça peut arriver aussi que certaines ressourceries aient un atelier et puis aient une boutique en centre-ville. Ça peut arriver qu'il y ait 3-4 boutiques. Ça peut arriver que c'est des petites boutiques, des grandes boutiques. Enfin, voilà, il n'y a pas une ressourcerie qui existe. Hein. Tant qu'elle répond aux 4 fonctions, elle peut avoir des formes très, très différentes. Donc, nous, on a un grand magasin qui fait à peu près 300 mètres carrés. On retrouve toutes les catégories d'objets qu'on collecte. On peut les retrouver dans la boutique. Alors, ça aussi, ça ne se pratique pas beaucoup à Paris, mais on a des espaces de vente mobiles. Alors, les brocantes et les marchés, on le fait un peu, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on pratique le plus à Paris. Mais en province, ça se fait beaucoup. En banlieue aussi, ça se fait beaucoup d'aller participer aux brocantes et aux marchés. On fait aussi la récupération sur les fins de vide-grenier. Ça arrive aussi, parce que souvent, les gens laissent beaucoup sur le trottoir, bien qu'on leur dise de pas laisser. Mais ils ont pas envie de ramener des choses chez eux. Donc, du coup, on fait de la récupération à la fin des vide-greniers. La vente à distance, alors la petite requête le fait pas vraiment, mais il y a des magasins qui l'utilisent beaucoup, la vente à distance, hein, qui mettent en ligne les objets. Ça fait venir les gens d'ailleurs, parce qu'ils viennent récupérer souvent l'objet directement à la boutique ou au point de vente. Ça permet aussi, pour ceux qui ont des boutiques petites, de pouvoir faire quand même de la vente voilà, à grande échelle. Et la vente matière, bah, je le disais tout à l'heure, par exemple, nous, on va récupérer la ferraille, bon, une poêle très très usagée qui ne pourra pas être vendue, et bah, elle pourra être quand même récupérée et vendue au poids chez un ferrailleur. Donc ça, on le pratique beaucoup. Alors, la particularité de la petite requête, je le disais tout à l'heure, c'est la redistribution gratuite, les dons aux associations et aux particuliers. Nous, on a un gros projet qui s'appelle le projet Vestiaire. Le principe, c'est qu'on est en partenariat avec une cinquantaine d'organismes sociaux dans la ville de Paris. Alors, ça va des centres sociaux, ça va à tous les hôpitaux, les maternités, voilà, les endroits où on fait de la distribution alimentaire, etc., etc., qui nous envoient, donc, qui nous dirigent des personnes qui sont assez démunies et qui vont venir pour venir chercher chez nous les biens de première nécessité. Donc, c'est essentiellement du textile hein, pour s'habiller, mais ça va être aussi de la vaisselle, voilà. Pas mal, évidemment, d'objets autour du camping, pour ceux qui vivent dehors, hein, les duvets, les tentes, voilà. Il y a aussi les produits un peu de beauté. Voilà, on essaye de satisfaire ces personnes un peu démunies. Ça représente quand même pour nous 2016 25 tonnes de distribuer gratuitement, donc c'est quand même assez conséquent. Hein. Voilà. Alors la fonction sensibilisation, ben, c'est peut-être la plus diversifiée puisqu'elle peut prendre évidemment plusieurs formes. D'abord, on a une mission nous qui est évidemment celle de l'information. Hein, donc quand les gens arrivent dans une ressourcerie. Il faut aussi qu'ils comprennent la démarche. Alors souvent, on me demande si on est comme Emmaüs. C'est la première question en général qui revient. Mais j'expliquerai après la différence avec un Emmaüs. On nous demande si on fait du troc, on échange. Ça aussi, c'est des questions qui reviennent. Alors non, hein, c'est vraiment basé sur le don. Nous, on récupère une fois que c'est donné. Et ensuite, nous, on peut revendre ou redistribuer. Donc on fait de l'information au quotidien, c'est-à-dire que les gens quand ils rentrent, ils savent que c'est une ressourcerie, ils savent comment ça fonctionne. Donc il peut y avoir de la sensibilisation lors des collectes, bien sûr. Alors ça nous arrive de travailler par exemple avec des bailleurs sociaux ou avec simplement des agences immobilières qui nous demandent d'organiser ça au pied d'un immeuble pour venir faire une collecte un peu exceptionnelle. Voilà, par exemple, souvent les locaux poussettes s'engorgent, les locaux vélos s'engorgent, les caves s'engorgent et les gens n'ont pas forcément toujours les moyens de venir ou le temps. Et du coup, la ressourcerie va venir directement au pied des immeubles et va venir collecter. Voilà. Et là, c'est le moment aussi de faire de l'information, de la sensibilisation autour du réemploi. Alors évidemment, les manifestations, hein, les expositions, les foires, les forums, alors, on est très en lien avec notre collectivité, enfin en tout cas nous à Paris, mais toutes les ressourceries en général sont très en lien avec leur collectivité. Et du coup, c'est l'occasion d'être au forum des associations, mais ça peut être aussi au forum des solidarités, etc., où on va expliquer le principe. L'idée, c'est de sensibiliser le maximum de public voilà, au plus proche. Donc on se déplace... hors les murs, bien sûr. Et les visites conférences, ben voilà, c'est un bel exemple aujourd'hui. Je viens à la BPI pour vous expliquer ce que c'est une ressourcerie. J'espère que j'aurai au moins touché quelques personnes qui auront envie de venir ou de découvrir, en tout cas. Alors, l'éducation à l'environnement, ça, c'est une grosse partie aussi chez nous, à la Petite Roquette. C'est toute l'animation qui va être destinée soit aux adultes, soit aux enfants, d'ailleurs. Hein, c'est pas que les adultes. Ça va prendre la forme d'ateliers, d'animation pédagogique. Alors, ça va être les ateliers chez nous, par exemple, du mercredi, hein, spécifiquement pour les enfants. Mais ça va être aussi les ateliers dans les écoles. Hein, on répond à pas mal d'appels à projets. Et donc, on travaille aussi avec les écoles. Mais on fait aussi des interventions. Ça arrive... dans les collèges, dans les entreprises privées qui veulent faire un séminaire, qui veulent sensibiliser leur public à moins de déchets, qui veulent organiser par exemple une collecte au sein de leur entreprise. Voilà, c'est le genre de tout qu'on peut faire. On se déplace et on peut le faire. Voilà. Donc les ateliers spécifiques, bah, ça pourrait être un peu comme aujourd'hui où on propose des ateliers spécifiques à la BPI. Aujourd'hui, on a un atelier sur le détournement du livre où on travaille avec la matière première qui est censée être jetée parce que ces livres sont obsolètes ou ne servent plus. Mais du coup, on va utiliser les livres. Aujourd'hui, c'est pour réaliser une œuvre collective, mais ça pourrait prendre bien d'autres formes. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces formats-là. Dans notre café, on a monté un café associatif à côté de la petite requête, qui est un café-atelier, où là, on va proposer beaucoup, beaucoup d'ateliers autour du do-it-yourself, donc le fais-toi-même. Et on va prendre uniquement des objets qui sont issus des collectes de la ressourcerie pour pouvoir les transformer ou expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut en faire pour éviter la poubelle. Alors, il y a des ateliers classiques, hein, vous connaissez les capsules de café, mais il y a bien d'autres. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on pratique beaucoup la co-réparation, parce que beaucoup d'objets maintenant sont vite obsolètes parce qu'ils ne sont pas réparables ou d'aspect pas réparable, mais finalement tout se répare à peu près. Et du coup, on propose beaucoup d'ateliers de co-réparation qui permettent de venir avec son objet et qui permettent d'être réparé avec un réparateur spécialisé, du coup un professionnel qui va vous aider et qui va vous montrer comment démonter, comment ouvrir l'appareil, comment pouvoir le remettre en marche. Voilà. Non. Pas en marche. Pardon. Sur pied. Pardon. Alors oui, évidemment, l'idée, c'est une réduction à la source, hein, une consommation citoyenne. La réduction à la source étant de moins on crée de déchets, mieux c'est. Alors ça, c'est un petit tableau qui je ne sais pas si vous l'avez en très très grand et si on voit très très bien, donc qui reprend les quatre fonctions avec les différents types d'objets qu'on reçoit. Le tri, nettoyage, test, le démantèlement, les ateliers et l'action environnementale qui est évidemment sur ces trois fonctions en même temps, qui n'est pas vraiment une fonction spécifique mais qui court sur les trois fonctions d'une ressourcerie. Alors, j'ai quand même rappelé quelques petites valeurs de la ressourcerie. Donc, évidemment, on est quand même tous ressourcerie des... On travaille dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on donne évidemment priorité à l'homme et à l'environnement par la réduction des déchets et la mise sur le marché de biens qui ont un fort bénéfice environnemental. Ça fait vraiment partie de nos grandes valeurs. On développe une économie solidaire qui donne priorité à l'homme sur le capital et on crée des emplois. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations sur l'emploi. Donc, j'en dirai peut-être deux mots à la fin. La petite requête, depuis qu'elle est créée, elle a, je pense, créé à peu près 40 emplois. Aujourd'hui, on est 21. En France, ça représente quand même 1400 emplois, je crois, mais je crois que j'ai mis des chiffres après. Voilà. Alors, c'est pas forcément des chantiers d'insertion. Hein. Ça peut prendre toutes les formes. La plupart des ressourceries, hein, 95%, sont en association. Et donc, il peut y avoir des chantiers d'insertion ou pas. Voilà. Chacun choisit son modèle. Encore une fois, il suffit de respecter les quatre fonctions. On n'est pas obligé d'avoir un modèle spécifique de ressourcerie. Elles peuvent avoir vraiment plusieurs formes très, très différentes. Et ensuite, la coopération. Donc, évidemment, partager nos ressources pour avancer. Ça, j'en reparlerai. Mais nous, on est en réseau, par exemple. Donc, l'Île-de-France a un réseau régional. Et la France entière a un réseau national des ressourceries. Et après, j'ai mis quelques chiffres. Donc, on a 150 ressourceries en France, dont 95% sont des associations. Alors, évidemment, 150 ressourceries en France, il va falloir qu'on soit un tout petit peu plus nombreux pour arriver à réduire les déchets plus que ça. Mais voilà, engagez-vous. à peu près tous les territoires sont couverts. Mais aujourd'hui, on est 25 ressourceries en Île-de-France, à peu près. On n'est pas très nombreux à Paris. Et il ne faudrait pas une ressourcerie, même par arrondissement. Il en faudrait une par quartier pour que ça fonctionne vraiment. Mais il faut bien commencer. Les ressourceries sont nées il y a 30, 35 ans, à peu près. Hein, voilà. Donc, il reste encore de la marge. Et il reste encore surtout beaucoup de déchets. Donc, allons-y. Donc, on a, voilà, pour les chiffres 2015, il y avait 35 000 tonnes de déchets collectés sur toutes les ressourceries en Île-de-France, en France, pardon. Et le chiffre d'affaires qui est quand même 13 millions d'euros, c'est pas négligeable, hein, on peut quand même le noter. 2900 salariés quand même sur les ressourceries en France. Et alors un taux de valorisation, alors je vais expliquer ce que c'est le taux de valorisation, je vais revenir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le poids, puisqu'on pèse tous nos objets, et on pèse aussi tout ce qui sort chez nous. Donc on pèse par exemple toutes nos poubelles. Donc on pèse nos poubelles, alors à Paris les poubelles jaunes, à Paris on a aussi les poubelles vertes, et on a les poubelles à vert. Alors on va sortir, nous quand on sort notre poubelle verte, eh bien on va la peser, parce que ce qu'on a mis dans la poubelle, eh bien il faut bien qu'on le comptabilise. Et on ne va pas peser tout ce qui passe en boutique en vente. Parce que ce serait trop long de passer chaque collier, chaque t-shirt à la peser, ce serait beaucoup trop long. Et que du coup, si on arrive à avoir les chiffres de ce qui rentre et les chiffres de ce qui est mis à la poubelle, et ben on arrive à avoir un taux de valorisation. Donc on est à 94%, ça veut dire en gros qu'il reste 6% qui est mis complètement à la poubelle. Donc c'est quand même, ça vaut le coup quand même d'aller dans une ressourcerie parce qu'elle, elle sait quoi en faire. Et que du coup, 6%, c'est quand même assez peu. Nous, à la Petite Roquette, on est à 91%. On n'est pas encore à 94%. Pour des raisons très claires, hein, c'est qu'il y a des filières de recyclage qui n'existent pas à Paris ou qui ne sont pas prises en compte et que du coup, on ne peut pas tellement envoyer dans une filière qui n'existe pas. Donc, parce que quand un objet arrive, il a plusieurs sorties possibles. Je disais tout à l'heure, il pouvait aller évidemment à la vente. Il peut aller à la distribution gratuite. Donc, il peut partir sous forme de don. Il peut partir sous forme de poubelle. Mais il peut aussi partir sous forme de recyclage. Donc, on a 4 catégories de recyclage chez nous. On a le papier qui va être envoyé au recyclage. Donc, ça peut être des livres obsolètes, déchirés, en mauvais état. On va avoir le textile. Donc, le textile, il faut savoir qu'à 95%, le textile, il est recyclable. Donc c'est un peu dommage de le mettre à la poubelle. Donc nous, on dit toujours aux gens, ramenez vos chaussettes, même trouées, parce que ça peut aller au recyclage. Donc avec le textile, on fait des isolants thermiques, des isolants phoniques, on fait beaucoup de rembourrage. Voilà, donc on refait du textile avec du textile. Donc ça vaut le coup de le ramener. On a tout ce qui va être déchets électroniques, hein, ce qu'on appelle nous les D3E. Donc ça va être tout ce qui va être à pile et à fil. Hein, donc les imprimantes, les ordinateurs, mais aussi les fers à repasser, les grille-pains, les téléviseurs, etc. etc. Donc, et la dernière sortie, c'est la ferraille. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que donc, tout ce qui est en métal et qui est en mauvais état, eh bien, c'est quand même issu de la terre, hein, le métal. Donc on essaye au maximum de l'envoyer dans la bonne filière de recyclage. Voilà. Alors, il y a d'autres territoires qui ont d'autres filières de recyclage. À Paris, on n'en a pas beaucoup d'autres. Donc, par exemple, la sortie du plastique est encore très compliquée en France. On ne peut pas vraiment sortir... Et il y a des choses qui ne sont pas réparables, et notamment les choses en plastique. Je prends l'exemple d'un camion pour enfants, vous savez, les petits camions où ils montent dessus. Quand la roue est cassée, vous pouvez quasiment rien faire puisque tout est en plastique, moulé, et donc c'est vraiment jeté directement à la poubelle. Là, il n'y a pas vraiment de possibilité. Donc voilà, la ressourcerie, elle a ses limites, mais je trouve que 94% quand même, au départ, c'est quand même pas mal. Ensuite, je crois qu'on n'a pas évoqué ça encore, mais beaucoup de gens se posent la question de savoir ce que c'est la différence entre une ressourcerie et une recyclerie. Alors, la ressourcerie, elle répond à ces 4 fonctions. Elle est gérée par une charte et les valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle est surtout multiproduit. C'est-à-dire que nous, on a une collecte non écrémante. On ne choisit pas ce qui arrive. Donc, on dit aux gens, vous ramenez tout ce que vous pouvez, sauf, parce qu'on a quand même un sauf, les matières dangereuses, les matelas qu'on évite pour des raisons de place et d'hygiène, et tous les matières dangereuses. Donc on ne va pas prendre, par exemple, les batteries de voiture ou ce genre de choses. Il y a des services, d'ailleurs, sur les villes qui sont très bien faits pour récupérer ce genre de produits. Donc voilà, on a une collecte non écrémante. Et c'est aussi la petite différence avec notre collègue d'Emmaüs, parce que je sens que cette question va arriver, ou qui sont beaucoup plus sélectifs sur leurs choix et qui vont prendre, par exemple, que ce qui marche. C'est un autre projet, hein. C'est pas moins bien ou mieux, c'est un autre projet. Nous, on prend aussi tout ce qui ne fonctionne pas, hein, c'est le principe. C'est-à-dire que vaut mieux que quelqu'un nous ramène une imprimante qui ne fonctionne pas chez nous plutôt que quand même de la mettre dans sa poubelle. Parce que nous, on n'en tirera pas d'argent. En revanche, on ira la mettre dans la bonne filière de recyclage. Hein, on n'est pas que là pour gagner de l'argent non plus. On est là aussi pour diriger les gens en disant, voilà, ça, c'est le bon tri à faire. Vaut mieux la ramener chez nous quand vous avez un doute plutôt que de l'acheter dans la poubelle tout venant qui va aller à l'incinération. Voilà. Et du coup, la vraie différence donc, sur la recyclerie, c'est que la recyclerie, elle va être, elle, spécifique. Et elle va s'attarder à un produit spécifique. Donc je vais prendre l'exemple d'une ressourcerie qui est dans le 14e, qui s'appelle Rejouer. comme son nom l'indique, ce sont des jouets. Donc elle, elle ne collecte que des jouets et elle ne vend du coup que des jouets. Donc elle ne peut pas s'appeler ressourcerie parce que le mot ressourcerie, il est protégé déjà et il est fait pour des gens qui prennent, enfin des ressourceries qui prennent tous les produits. Donc on va appeler ça une recyclerie. Donc c'est plutôt des spécialisés. Alors on a une recyclerie sur les biens culturels, on a une recyclerie sur les articles de sport, sur le jouet. On a des recycleries spécialisées dans le textile, on a des recycleries spécialisées dans l'électroménager. Voilà la grande différence entre les deux. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être... Évidemment, il y a des milliards de choses que j'ai dû oublier, mais l'idée, c'était peut-être qu'on échange et qu'on se pose des questions. Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez envie de venir? C'était très clair, alors. Ah, monsieur, j'arrive. Je viens.
Et moi, c'est deux questions que je voulais poser. Et la première, c'est le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, finalement, de ressourceries en association. Et le problème, il est encore difficile à discuter puisque apparemment, il n'y a pas de conscience générale sur la question de la gestion écologique des déchets urbains. Et donc, comment se fait le lien? Parce qu'on remarque, on dirait une... Chacun travaille de son côté. Je vous donne un exemple. Ce que vous faites, la requête, je crois qu'ils doivent être en lien. Et sur la ville de Montreuil, on est maintenant référencé de la même façon. On a participé même ensemble à la dernière épreuve. Nous, on fait de la récup, de la recyclerie, et ensuite de la ressourcerie un peu à peu près. Et nous avons les mêmes structures comme vous avez décrit, tout tel qu'on a fait. Mais il y a une difficulté en Île-de-France, par exemple, pour la question des conférences. Donc comment se fait-il que nous ne sommes pas à mesure de sensibiliser au plus grand nombre et amener, aller vers de grandes rencontres, de réflexions, de discussions, de débats? Parce que la question quand même est très importante. Bon, donc là, il y a le manque de pont. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Comment se fait-il que, tu vois, on est tous dans le même objectif, parce que l'intérêt, c'est justement faire la lutte la même. C'est lutter contre l'augmentation de la production des déchets. Dans la question de la gestion de la ville et dans la question même de la gestion de la citoyenneté, ce n'est pas encore compris de manière générale. Donc, comment il faudrait créer un pont sur cette question-là? Ça, c'était ma première direction quoi, de recherche d'information. Et il y a aussi une deuxième question qui est que nous avons les structures qu'on a montées de manière très difficile, mais aussi on ne fait pas les liens et le développement de ces structures, comme il s'est fait sur beaucoup de points. Et des grandes questions, parce que les villes ne veulent pas nous aider. Les villes, nous, par exemple, on est dans la démarche, on pense que si on pouvait donner dans chaque quartier une place, parce que nous avons mis en place un marché qui fonctionne qu'une seule fois par mois pour permettre la revente de tout ce qui a été collecté à moindre coût, c'est-à-dire qu'à 2 euros, 1 euro, comme moyen de déstockage, si seulement la ville de Paris fait cette opération, et on aurait plus de la moitié des déchets qui sont produits et qui diminueraient. Parce que nous, le calcul qu'on fait là-bas, c'est que dans le cas de la collecte, on a réduit de beaucoup. C'est comme ça qu'on commence à être un peu accepté par la ville, et de beaucoup, tu vois, la quantité des déchets produits. Donc, comment faut-il faire? Quelle démarche il faut? C'est une interrogation.
Mon bon monsieur, si j'avais cette réponse... Je serais ravie de vous la donner. Mais c'est vrai que la structure en réseau, elle permet déjà d'être plus fort. Parce que quand on va avec un réseau qui compte 150 structures, bah évidemment, on est plus fort. Sur la région Île-de-France, on n'est que 25, mais on est un petit peu plus fort. On est plus entendu à la ville, on est plus entendu à la région. Mais évidemment, on est très, très loin de ce qu'on devrait être. 150 structures sur la France, c'est vraiment rien du tout. Enfin, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, mais c'est rien du tout. Je crois que tant que les gens n'ont pas pris conscience dans leur foyer, dans leur maison, du problème, on va encore ramer pendant longtemps. Mais ça grandit. Après, la ville de Paris, enfin, moi, je vais parler pour la ville de Paris parce que je ne connais pas les autres collectivités qui ne sont pas la mienne. La ville de Paris, elle a mis du temps aussi à prendre conscience. Et elle prend conscience que le réemploi, c'est mieux comme solution que le recyclage. Elle a beaucoup investi sur le recyclage, puis au bout d'un moment, elle s'est aperçue que finalement, valait quand même peut-être mieux entre les deux réemployer plutôt que d'aller directement au recyclage. Donc tout ça commence à s'ouvrir, on commence à... Voilà, nous, on en parle beaucoup, on monte souvent au créneau, on parle beaucoup avec la ville de Paris, avec la région Île-de-France, on échange beaucoup, mais voilà, on est peut-être encore aux prémices. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, si moi, j'étais maire d'une commune, j'imposerais une ressourcerie dans ma commune. Moi. Mais moi, je suis déjà très sensibilisée. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Je le souhaite autant que vous, en tout cas, que ça se passe comme ça. Mais je trouve que quand même, ce qui est important, c'est les habitants. Une fois que les habitants y seront habitués, ça va faire remonter dans les collectivités. Donc nous, attardons-nous, nous, sur les habitants, déjà. Faisons bien de la sensibilisation sur les habitants, dans les foyers, les enfants, comme ça, ils sont prêts. Et ensuite, on y arrivera. Mais ça va prendre du temps.
Moi, je voudrais juste échanger par rapport à la deuxième question, du coup. En fait, on est rentré dans une société où il y a une énorme consommation qui est faite. On utilise beaucoup de matières premières, beaucoup de ressources naturelles pour produire des biens qui sont issus de chimie, de synthèse, etc., qui sont très très coûteux énergétiquement, qui coûtent beaucoup d'eau, qui coûtent plein de choses. On est dans une dynamique de consommation qui est très très importante. Et du coup, on a une énorme production de déchets. Du coup, les collectivités et les institutions, elles sont face à des quantités qui sont considérables et elles cherchent à traiter du volume. Donc, la solution de facilité, c'est de prendre un partenaire plutôt industriel, plutôt unique, et puis de lui demander de régler ce problème-là, quoi, ou de s'en occuper en tout cas. Il est beaucoup plus difficile pour une collectivité de s'adresser à des petites initiatives locales très diversifiées sur le territoire, sur des territoires, pour mettre en place ces pour mettre en place et structurer une filière de traitement des déchets adaptée. Mais il y a des recherches qui sont faites en ce moment, et notamment le réseau dont on parlait, qui est le réseau francilien dont Delphine parlait, il évalue à la possibilité sur le territoire français d'avoir l'équivalent d'une ressourcerie, en tout cas une structure de réemploi pour 30 000 habitants sur le territoire français.
Il y a encore un peu de boulot.
Donc il y a encore un peu de boulot, clairement, et qui pourrait tourner économiquement, enfin voilà, qui fonctionnerait et qui réduirait du coup de manière considérable les déchets, avec un potentiel de création d'emplois de 60 à 100 000 emplois créés en France là-dessus. Et c'est un estimatif, à l'issue de quelques recherches, etc. C'est très certainement des chiffres qu'il faudra revoir, mais on est confronté aujourd'hui à ça. Et ensuite, la difficulté qu'on a sur de la mise en réseau pour justement peut-être faire remonter cette information-là, la valoriser un peu plus, c'est que bah, nous, notre métier, c'est d'être en local et de traiter le déchet, d'accueillir les gens, de discuter avec eux et de collecter ces déchets, de les traiter, de les redistribuer. Le communiquer auprès du grand public, communiquer auprès des institutions, etc., c'est un autre métier. Et du coup, pour ça, il faut qu'on arrive à constituer, à agréger des compétences pour le faire, et du coup, des moyens aussi pour le faire. Enfin, c'est un peu un cercle, ça se mord un peu la queue, quoi. Mais c'est des problématiques. Mais bon, ceci.
Mais on est encore beaucoup dans l'expérimentation. La ville de Paris, par exemple, elle expérimente aujourd'hui. Ce que je trouve, moi, pas admissible. La ville de Paris ne veut pas qu'on ramasse dans les déchetteries. Bon, on peut en discuter, hein. Ils ne sont pas prêts. Bon, peut-être que dans 3 ans, ça se fera. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de déchets à éviter. Allez les chercher directement à la déchetterie. Parce que souvent, les gens qui déposent disent « Ah, ben moi, j'ai changé de table, je dépose cette table, je ne suis pas très content de l'acheter, mais je n'ai pas d'autre solution. » Alors, c'est bien de les renvoyer vers la ressourcerie, mais pas mal d'agents des déchetteries ne savent même pas que ça existe. Donc là, nous, on a un projet expérimental qui est d'implanter un lieu de collecte directement en déchetterie, que nous, on viendra récupérer. Donc ça fait son chemin. Il y en a un qui va ouvrir, qui s'appelle... C'est donc un local de réemploi qui est directement implanté dans une déchetterie. On va pouvoir, nous, venir collecter directement en déchetterie, dans un local spécifique. Donc ça avance, c'est des tout petits pas. Voilà. Mais si après, toutes les déchetteries ont un local de réemploi sur la ville... une ville comme Paris, je pense qu'on va éviter quand même encore pas mal de tonnes de déchets. Donc c'est progressif, ça avance tout doucement. Il faut faire les expérimentations. On y est un peu sur les expérimentations, mais on n'est pas encore voilà, évidemment très opérationnel. Puis il faudrait faire moins de déchets à la base aussi. Enfin, mais ça, c'est un autre débat. Et ça, malheureusement, nous, on ne peut pas tellement y travailler parce que nous, on récupère les déchets. Donc on n'est pas à l'élimination de base, donc on n'en est pas là, nous.
Ce que nous avons soulevé, par exemple, qu'il faut peut-être aller contacter un spécialiste ou un professionnel, mais ça nous coince aussi en même temps, parce que l'expérience de l'eau, on a vu dans le monde, et le fait qu'il y a de grandes entreprises qui se sont mises à traiter l'eau, l'eau petit à petit devient de l'eau et chose ou bien objet achetable. Alors que l'eau, c'est un droit, normalement, comme on fait là, pour lutter contre l'augmentation des déchets comme moyen de protéger la planète, par exemple.
Eh oui, tout est bon pour faire problèmes. Du business. Et avec l'eau, on fait beaucoup de business. Et ça ne me rassure pas de vous dire ça, mais vous savez bien aussi qu'il y a des grands industriels qui se sont mis sur le recyclage et qui font du business aussi. Hein. Il y a des filières un peu obscures sur le recyclage. Hein. On ne sait pas bien où ça va. On n'a pas le droit de monter dans les camions pour voir où vont nos déchets. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, c'est clair. Voilà. Mais ça va évoluer. Il faut espérer, en tout cas. Mais vous avez raison. Il y a déjà du business fait sur les déchets. C'est que c'était peut-être très très clair.
Après, on peut peut-être ouvrir aussi sur une spécificité qu'a la petite les spécificités qu'ont un peu la petite roquette, puisque du coup, il y a effectivement la ressourcerie.
Oui, on peut parler des spécificités. Alors nous, je vous disais tout à l'heure, on a ouvert un café atelier, donc là, c'est plutôt aussi dans l'esprit convivial et lien social. Hein, parce que nous sommes au départ une association de quartier qui avons ouvert une ressourcerie. Donc nous, on tient beaucoup évidemment au lien social et c'est les habitants qui font vivre la ressourcerie parce que sans leurs dons, nous n'existerions pas. Donc ça, c'est important de garder ce lien avec l'habitant et ne pas juste avoir ce lien de donateur ou de client. Donc le café-atelier sert à ça. Donc le café-atelier, il accueille évidemment, comme je vous disais, les ateliers autour de la réparation et du do-it-yourself, du fait-toi-même. Mais il accueille aussi un écrivain public, un conseiller juridique, des tricoteuses du mardi qui vont venir tricoter avec la laine récupérée à la ressourcerie pour faire des tricots pour des enfants démunis qu'on reçoit le vendredi sous forme de vestiaire, etc. etc. Tout est en lien, en fait. Hein, le café, évidemment, complètement imbriqué avec la ressourcerie. Alors, le dernier né, c'est la cyclette, hein, c'est l'atelier vélo. De la même manière, plein de vélos sont abandonnés, en tout cas à Paris. Encore une fois, je parle à Paris parce que je ne connais pas le reste des régions. Et du coup, là aussi, il existe des grandes déchetteries à la sortie de Paris, remplies de vélos, moi-même ayant été très surpris par le nombre de vélos. Espèce de stade de foot de vélos abandonnés, c'était très impressionnant. Et là aussi, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Souvent quand on crève son vélo, on le laisse un peu en bas à la cave au local vélo, puis on n'y touche plus pendant 6 mois, et puis il finit par être oublié, et puis il finit par être détérioré ou ramassé ou volé. Et du coup, le principe de la cyclette, c'est vraiment de venir avec son vélo pour le co-réparer avec un spécialiste, mais c'est aussi pouvoir donner des pièces détachées. Là on travaille pour le coup avec la ville de Paris et on a le droit de récupérer des vélos sur les déchetteries spécialisées sur les vélos. Vous voyez, ça va, on avance. Et là, avec les pièces détachées, on arrive à refaire des vélos, tout simplement. Là, c'est pareil. Je pense qu'on pourrait être 20 ateliers vélos à Paris ou 50 ateliers vélos à Paris. On ne se ferait pas concurrence. Tellement il y a de gens qui voudraient faire du vélo. En plus, on aménage des pistes cyclables, donc c'est formidable. Et le nombre de vélos qu'il y a à restaurer. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire plutôt que d'aller acheter du neuf très cher. Voilà. Donc ça, c'est la dernière année... de la petite roquette qui a ouvert au mois d'avril voilà, et qui a déjà un bon succès. J'ai pas parlé des chiffres, mais la petite requête pour vous donner une idée, aujourd'hui c'est 20 salariés. Alors, menacés par les contrats aidés, je le dis parce que en ce moment c'est un peu toutes les manifs autour de la loi travail, donc nous on a pas mal de contrats aidés, donc c'est très compliqué, les temps vont être durs. Les chiffres, nous on collecte à peu près presque 300 tonnes par an, donc ce qui est quand même plutôt considérable. Ça représente environ une tonne par jour, hein, parce que c'est ça, on est ouvert 300 jours par an. On peut arriver à monter des jours à 4 tonnes hein, par jour, en 6 heures, hein, parce que nous sommes ouverts que 6 heures par jour. Donc c'est assez considérable. C'est exponentiel, hein, parce que nous on a ouvert il y a 5 ans, et on ne fait qu'augmenter la collecte. Donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire aussi que les gens ont compris le projet, s'y intéressent et amènent de plus en plus. Et du coup, on a aussi un chiffre d'affaires, évidemment, avec la boutique. Alors là, je me tourne vers l'administrateur, qui est de 300 000 euros à peu près.
Non, 240.
240 000 euros, pardon. Voilà pour le chiffre d'affaires boutique. Alors, les fonds de la ressourcerie, pour qu'elle fonctionne, hein, nous, on est à 60% d'autofinancement. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les ressourceries, mais nous, c'est le modèle qu'on a choisi. Donc, on a nos ventes, évidemment, par la boutique. On a les ventes matières. On a les ventes de nos animations, hein, dont on parlait tout à l'heure. Mais on a aussi des subventions, donc de la ville de Paris. En sachant que les collectivités sont un peu partie prenante aussi des ressourceries quand elles s'installent sur leur territoire. Puisque comme les ressourceries gèrent des déchets, eh bien, la ville qui a la gestion des déchets se doit de payer voilà, les intermédiaires qui s'occupent des déchets. Donc, nous, on est un peu financés aussi par la ville de Paris pour cette fonction. Et après, on a les contrats aidés. Enfin, jusqu'à maintenant, nous avions les contrats aidés. Voilà. Qui représentent à peu près 20% de notre budget total, c'est-à-dire une somme assez grande. Voilà pour la partie financière.
Ouais, pour les chiffres. Après, il y a effectivement, du coup, la petite roquette, il y a la ressourcerie, il y a la cyclette et la troquette qui sont les lieux physiques, un peu les grosses activités, un peu comme des laboratoires. Mais à côté de ça, on a historiquement du coup une activité de mise à disposition d'espace à destination des gens du quartier. Et du coup, ça, ce sont des salles polyvalentes qu'on met à disposition des gens, des compagnies, des artistes, des gens en fait. Enfin voilà, c'est une salle quoi. On a aussi.
C'est toujours pour garder le lien avec l'habitant, oui. Qui est notre.
Oui, et puis pour permettre à des gens d'accéder à un espace. À un espace de pratique, puisqu'en ville, le foncier est quand même compliqué.
Oui, on paye un loyer. Hein. La ville ne nous offre pas le local. Hein.
Ouais. On paye un gros loyer.
Si elle peut le faire, c'est chouette.
Qui fait le montant des c'est contrats aidés. Hein,
qui fait le montant. C'est ça, qui est l'équivalent des montants des contrats aidés. Évidemment, à Paris, c'est plus difficile d'implanter une ressourcerie à cause du foncier. Hein. Et d'abord, trouver les locaux, c'est pas facile parce que 1000 mètres carrés, qui est presque un minimum maintenant pour ouvrir une ressourcerie, c'est compliqué et c'est très cher. Donc en province, c'est plus facile, mais parfois en province, on a moins de monde et on a plus de problèmes de communication ou d'ouverture sur le. Voilà, encore une fois, chaque ressourcerie a sa propre image, son propre fonctionnement. Le nerf de la guerre à Paris, c'est le foncier, c'est sûr. C'est pas le nombre de gens qui passent. C'est aujourd'hui 39 000 passages clients. Ouais. Donc c'est
dans la ressourcerie.
Dans la ressourcerie, donc c'est quand même assez considérable, hein, par an.
Après, c'est pas des primos, enfin, c'est des personnes qui viennent et qui reviennent aussi, oui. Donc c'est pas 39 000 personnes en réalité. Mais bon, ça, enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de passages. Mais du coup, sur toutes les activités, il y a aussi 5 services civiques. Sur les différents projets de jardin, sur le projet de vestiaire, sur les différentes actions un petit peu. Et bien évidemment, des bénévoles, puisque du coup, on a quand même entre 30 et 40 bénévoles permanents, pour certains qui viennent depuis des années, pour d'autres qui sont là que depuis quelques mois, pour certains qui viennent et puis qui ne reviennent pas, ou puis qui viennent tous les 6 mois. Enfin, il y a de tout.
Peu, ouais. Il y a quand même des bénévoles
Après,
très fidèles.
Effectivement, beaucoup de
gens qui viennent et qui restent longtemps. Encore une fois, on parle des ressourceries en général. Il y a des ressourceries qui fonctionnent qu'avec du bénévolat, hein, ça existe. Il y en a qui ont plus de salariés que de bénévoles, il y en a qui ont plus de bénévoles que de salariés. Ça dépend des structures, ça dépend de la couleur de la ressourcerie. Voilà, il n'y a pas de modèle tout fait, il y a un modèle à trouver, une équipe à trouver et un modèle à faire. Il y a des ressourceries qui sont que bénévoles ou c'est que des gens à la retraite qui ont décidé de monter une ressourcerie voilà, autour de chez eux, ça existe. Donc il n'y a pas un modèle, il y a des modèles.
Moi, je voulais faire partage d'expérience. Et nous, notre système fonctionne avec un magasin. On récupère, on trie et on spécialise et pour remettre l'objet en route. Donc, il y a les dons gratuits. Même maintenant, là, vous téléphonez. Et quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez au magasin et vous prenez ce qui correspond exactement à votre besoin. S'il n'y a pas, donc il faut attendre les prochains arrivages. Et ça, c'est un mode de fonctionnement. Deuxième mode de fonctionnement, on a mis en place un service et parce qu'on s'est fait acquérir une camionnette. Donc, on a un mode de service d'appel, c'est-à-dire que vous avez chez vous, vous êtes trop chargé, vous téléphonez seulement, nous, on vient enlever directement pour amener à un lieu qu'on a trouvé où on met le triage. Le mode est le même, c'est-à-dire quand ça arrive, on pèse, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de la production vraiment exponentielle hein, de la consommation et des déchets. Et après, nous avons fait aussi une expérience qui est que les emplois aidés sont en train d'être mis en cause. Donc on est parti faire du tutoriat à l'agence Pôle emploi. Et donc, avec ce tutoriel, on a créé quelques petits emplois en prenant l'engagement de les former à une activité qui peut devenir vraiment un travail après. Et ça, le Pôle emploi, il a pris en considération cette proposition qui est fait que vous êtes au chômage. Et on vous envoie, mais le chômage est toujours versé, sauf qu'il faut apprendre. Et donc là, on a mis des chauffeurs qui ont appris, permis et pris en charge, et qui sont devenus des travailleurs possibles.
Et créé un nouveau métier.
Voilà. Et donc, maintenant, ça, la négociation, c'est le problème des politiques, comme on a dit là. Comme ils ne sont pas encore un peu avancés dans la conscience, je ne sais pas comment il faut bousculer, parce que tout ça sont des petites expériences mélangées. Par-ci ou par-là, ça peut peut-être donner quand même...
Qu'il faut tout aller déposer devant la mairie. Je ne sais pas. Il faut continuer à faire ce qu'on fait. Ça va finir par se voir. Moi, c'est ce que je me dis. Mais je n'ai pas de réponse à ça. En tout cas, nous, on travaille avec le politique. On n'arrête pas, hein, on le reçoit, on avance. Mais c'est vraiment, pour l'instant, très expérimental. Mais vous aussi, je vois que vous faites plein d'expériences. Plein d'expérimentations. Et ça va finir par y arriver, la preuve. On arrive à créer des nouveaux métiers. Et c'est vrai que vous avez raison, au Pôle emploi, maintenant, il y a un code, les petits codes, là, vous savez, les numéros de métiers, là, pour les ressourceries. Ça y est, il y en a deux même. Le code ROM, voilà, c'est ça. Il y a deux codes ROM pour les ressourceries. Donc on avance. Évidemment, c'est petit, mais on avance. Donc voilà, on va y arriver. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps. De manière, l'écologie, ça va prendre encore un peu de temps.
Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions ou s'exprimer ou... Bon, je sais qu'on n'est pas très nombreux. Hein.
C'est ce qu'on disait, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
Un tout petit peu, c'est pas grave. On s'arrête là.
On peut l'ici tous, si aller boire un coup.
Vous avez été attentif ? Vous n'avez pas des questions ? C'est très très clair ? Est-ce que c'est très très clair ? Ah, vous avez raté le début ? Oh. Non, je ne vais pas recommencer.
En fait, je me pose juste une question par rapport à vous avez dit tout à l'heure comme quoi vous comment dirais-je, vous cherchez des bénéfices et tout ça. Donc, j'aimerais bien savoir si votre objectif est plutôt lucratif ou bien c'est comme une association, en fait.
Alors, on est une association. Le but est non lucratif. Hein, notre but, c'est vraiment l'environnement. Voilà. Après, évidemment, on a des salariés et des charges à payer. Il faut bien qu'on gagne de l'argent pour ça. Mais je vous rassure tout de suite, nous sommes une association à but non lucratif.
Oui, et puis c'est même une volonté affichée, en fait, et même revendiquée, d'être à but non lucratif et d'avoir une gestion désintéressée. C'est voilà.
Tout à fait, ça fait partie du cahier des charges pour être une ressourcerie. Voilà. C'est dans la charte.
Moi, personnellement, chez moi, je fais le recyclage et j'ai un collègue qui ne le fait pas. Et après, je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, mais l'argent derrière, qui va le récolter? C'est ça qui se pose comme question. Vous voyez, c'est pour ça que, en fait, ça peut déranger certaines personnes, je dirais.
Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai dit qu'effectivement, il y avait des grosses filières de recyclage qui étaient un peu obscures. Il a raison quand même, votre collègue. D'accord. Mais ça n'empêche que faire le bon tri et faire le bon geste, c'est quand même mieux. Mais effectivement, il y a encore des filières de recyclage qui sont un peu obscures, même pour nous qui travaillons... qui sont spécialisés dans le déchet. Mais la plupart du temps, nous, en tout cas dans les ressourceries, comme on ne favorise pas le recyclage, mais le réemploi des objets, et ben, s'il repart dans une famille, on est sûr qu'il est bien utilisé. Donc il faut dire à votre ami de venir dans une ressourcerie pour déposer ces choses.
Le but, c'est aussi de sauver des objets et d'éviter que des apports aux recycleurs industriels qui, entre autres, se font de l'argent dessus. Après, à choisir entre un objet qui pollue et un objet qui fait du bénéfice à un industriel en polluant moins, c'est juste une question de conscience.
Je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai dit, mais nous, vraiment, ce qui nous importe, c'est le réemploi des objets, pas le recyclage. Le recyclage, pour nous, c'est vraiment le pire. C'est la dernière étape. On n'en a pas du tout envie, nous, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils en font. Donc, c'est pour ça que nous, on prend l'objet à la source, et quand la chaise arrive, on la nettoie, on la restaure, et on la revend en tant que chaise. Voilà. Oui, voilà. À prix très, très bas, bien sûr. Voilà. Donc, le recyclage, pour nous, c'est la dernière étape. C'est celle qu'on aime le moins.
En termes de bénévolat, qu'est-ce que vous faites au quotidien, en fait?
Alors, tous les bénévoles qui sont chez nous et qui sont dans les ressourceries font essentiellement du tri. D'accord. Donc, on a du tri à tous les postes. Donc, vous pouvez venir trier des textiles, trier des livres, trier des jouets. Vous aurez le plaisir d'être avec moi. Vous pouvez trier des objets, alors là, de tout ce qui va être vaisselle, bibelot, décoration, etc. On a la réparation informatique, on a le mobilier. Et on peut aussi avoir une petite aide à l'administration là-bas, je vois mon collègue, au secrétariat, tout ça. Voilà, en gros, il y a du boulot, hein. Venez.
En quel genre de semaine on peut faire ça?
Alors, nous, c'est très facile parce que vous pouvez venir que 2 heures par semaine et ce que vous avez fait, c'est déjà fait. Et c'est plus à faire. Donc, je prends un exemple. Moi, je gère pas mal le poste des jouets et j'ai des montagnes de puzzles et de jeux de société. Et si vous venez juste une heure trier 7 boîtes ou 8 boîtes de puzzles, et ben, c'est toujours ce que nous, on n'a pas à faire. Donc, en fait, le bénévolat chez nous, il est assez simple. Vous pouvez venir une heure, vous pouvez venir une journée, vous pouvez venir toute une semaine. C'est assez facile de rentrer et de se mettre tout de suite à la tâche.
C'est pas possible.
Ah, si, chez nous, vous pouvez faire ça le week-end, mais que le samedi, hein, parce que le dimanche, non, c'est le jour du Seigneur. D'accord. On n'est pas là le dimanche. D'accord, merci. Mais je vous en prie.
J'avais une autre question. Comme à Paris, on n'a pas forcément des voitures pour aller amener justement des objets un peu volumineux dans les ressourceries. Est-ce que vous avez des demandes aussi de Parisiens de venir chercher directement chez eux? Et est-ce que vous y répondez? Comment?
Oui,
est-ce
nous,
que...
on y répond une fois par semaine. Le mercredi matin, on va à la collecte, ce qu'on appelle nous la collecte à domicile. Donc c'est sur rendez-vous. Hein, donc on prend rendez-vous au bureau et ensuite on va chercher. Alors, on a des demandes, évidemment, qu'on n'arrive presque même plus à... Enfin, on n'arrive plus à y répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, au début, on s'était un petit peu mis sur le territoire du 12e et du 20e. Donc, on a très vite arrêté. On est resté sur le 11e qui contient déjà 165 000 habitants, ce qui est énorme. Et que, voilà. Après, du coup, on essaye de prioriser les personnes qui ne sont vraiment pas mobiles, parfois qui ont un handicap ou qui sont des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément même porter de sacs de textile qui seront très lourds. Voilà, mais c'est une demande très forte. On pourrait faire des collectes à domicile presque tous les jours. D'ailleurs, il y a des modèles en province où ils ne font que de la collecte quasiment à domicile, parce que comme les villages sont éloignés les uns des autres, tout le monde n'a pas forcément un véhicule. Bah voilà, ça se fait beaucoup. À Paris, un peu moins, parce que vous savez qu'il faut garer le camion, faut être dans les embouteillages. Mais on le fait, oui, bien sûr. Ça marche très très bien. Et c'est gratuit. Alors, peut-être n'étais pas concentré quand je l'ai dit, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure. La différence avec Emmaüs, c'est que leur objectif au départ n'est pas le même que le nôtre. Eux, ils font de l'insertion. Nous, on fait de l'écologie. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est que Emmaüs va prendre essentiellement des objets en bon état qui fonctionnent. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Emmaüs avec un objet qui était en panne. En général, ils vous le remettent dans la voiture et ils vous disent « c'est pas possible ». Voilà, nous, notre fonction, elle est de prendre tous les objets et de ne pas avoir d'écrémage à l'entrée. Donc après, des fois, on n'est pas très content hein, d'avoir un objet en très, très mauvais état qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir réparer. Mais on dit quand même « merci, madame, c'est un beau geste ». Mais on peut quand même aussi ajouter un peu de pédagogie et dire « la prochaine fois, peut-être que quand même cet objet, vous pourrez le mettre directement à la poubelle ». Alors surtout pas pour les déchets électroniques. Mais en gros, c'est ça. La grande différence, elle est sur l'écrémage au départ. Nous, on prend tout.
Emmaüs est associé petit à petit à un choix. Il prend que le gros objet, en fait. Maintenant, tu vois, il s'est spécialisé. Et c'est quand tu te déménages de meubles, de gros trucs, parce que c'est ça qu'ils ont, leur grand magasin. Donc là, c'est le recyclage que nous, ce que nous tentons de faire là, par exemple, c'est le recyclage qui va dans le cadre de comment gérer de manière écologique les déchets tels que nous les produisons seulement, c'est tout. Puisqu'on ne nous a pas habitués, je pense, depuis l'enfance, au triage, à comment il faut moins consommer. Donc c'est logique que là, c'est une action différente, déjà. Et par exemple, ils font l'insertion professionnelle. Et nous, par exemple, ce que nous faisons, ce n'est pas l'insertion professionnelle. Nous, mais nous, on n'en fait même pas parce qu'on n'a pas le moyen. Parce que déjà, les villes, notre ville est bloquée, fermée, qu'on dirait les yeux fermés presque. Donc, ce qu'on fait, c'est permettre surtout à ce que l'idée même de lutter contre l'augmentation des déchets puisse apparaître dans les familles. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent, parfois, il a acheté tout neuf là. Au roi Merlin, et il n'a pas de place à la maison. Et il te téléphone encore, il faut enlever parce qu'il n'y a pas de place. Donc c'est une mission beaucoup plus de débat, de, je ne sais pas comment vous appelez ça, sensibilisation. Voilà. Donc nous, toutes les activités, que ce soit pour la rencontre des écoles, que ce soit les discussions dans la ville, ça porte sur ça. Mais on a très peu d'élus qui, normalement, je ne comprends pas, qui n'arrivent pas à nous soutenir, je ne comprends pas.
La prévention, on sait que c'est ce qui prime. Hein. Normalement, ça devrait être le... Bon.
Bonjour, moi je suis là-bas en train de travailler, je vous écoute d'une oreille. J'ai un petit peu intervenu... Non, au contraire. J'ai un petit peu intervenu dans des structures à but non lucratif. Et j'ai arrêté parce que j'ai souvent constaté des petites dérives, notamment concernant les rémunérations des gens qui sont à la base de ce genre de projet. Donc voilà, je crois que vous êtes deux. Bah, à vous la parole, vous gagnez combien ?
Je gagne exactement 1600 euros par mois. Voilà, net. Pas de soucis, j'ai pas de problème à le dire. Voilà, j'ai été en contrat aidé avant et je ne suis plus en contrat aidé, je suis en CDI maintenant. Et je ne suis pas la directrice, je suis la coordinatrice.
La même chose. Et les salaires à la petite roquette sont à 17% au-dessus du SMIC. Voilà.
Quel que soit le poste, tout à fait. Tous les salaires sont à 17% au-dessus du SMIC et non pas au SMIC.
questions. Oui, bah, j'ai pas de problème.
Une autre petite question piquante.
Oui. Vous faire part d'une expérience en banlieue. Quand on doit se débarrasser, je suis dans une ville où il y a une déchetterie. Donc il y a un tri qui est assez rigoureux, mais il y a des objets qu'on ne peut pas emmener soi-même. Donc la ville collecte un jour par semaine des objets encombrants. En général, c'est le matin. Et très tôt, vers 5 heures du matin. Donc, on sort plutôt l'objet la veille au soir. Et on constate en fait que tout est enlevé avant le passage des services autorisés, labellisés. Je ne sais pas comment c'est possible, mais à partir du moment où on sort de chez soi avec un objet pour le déposer normalement là où c'est autorisé en accord avec la ville, il y a immédiatement un passage qui se fait à un enlèvement. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine et m'interroge parce que voilà, je me dis c'est pas possible, c'est par satellite, mais ça fonctionne extrêmement bien, si bien que quand les camions autorisés arrivent, d'ailleurs ils n'arrivent pas, j'ai surveillé, ils ne viennent plus, toute la place est nette. Voilà, il reste vraiment que ce qui est complètement effondré. Voilà, ça reste. Voilà, c'était une expérience vécue il n'y a pas si longtemps et qui interroge parce que qu'est-ce qui se passe dans la déchetterie, on ne sait pas très bien. Il y a des tas de bacs, c'est pas très explicatif, donc on va à un bac plutôt qu'à un autre, bon voilà, et c'est très très méticuleux, mais il n'y a pas d'explication, voilà, rien du tout. Et puis ce qu'on ne peut pas emporter, je vous dis, c'est une surveillance étonnante, mais tout part, sauf vraiment le... Il n'y a plus rien à faire, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Donc, il y a quand même un besoin de cette société à récupérer. Hein, ça. On voit bien que ça fonctionne de façon... Voilà, donc... Là, ça se fait de façon sauvage, mais je vous garantis qu'il y a des vrais besoins et que ça fonctionne un peu sauvagement, en tout cas. Eh oui.
Là, c'était le cas, oui, d'une ville proche de Paris. Sur Paris, c'est même pas une journée spécifique dans le mois, dans la semaine. C'est en continu, toute la journée. Il suffit de faire une déclaration sur le site et puis nos objets atterrissent en bas. Et on se retrouve avec des camions à l'essence de la mairie de Paris qui roulent sans cesse dans la ville en quête de déchets qui sont déjà partis. C'est évident. Et à la fois, tous ces déchets collectés pour la déchetterie, par les services de la propreté, partent dans une direction de non-réemploi évidente. C'est-à-dire, on a un tri méticuleux en déchetterie par type de matériaux à l'intérieur des objets pour rediriger vers des filières industrielles en passant par un broyage. Donc... Je suis bien d'accord avec vous. On voit tous ce phénomène un peu irrationnel se dérouler devant nous autour des déchets. Alors que prendre le réemploi en charge dès le début, et aussi évidemment les méthodes de consommation, d'achat et de, je sais pas comment dire, de rejet des objets, devraient primer sur le recyclage. Mais ça sert pas des industries.
Et puis on est sur une logique d'échelle, c'est-à-dire que Paris, c'est 2,5 millions d'habitants. À 500 kilos par an par habitant, ça fait quand même des volumes de déchets qui sont considérables, qui pourraient être réduits d'ailleurs, hein, puisqu'il y a encore du textile dans les poubelles, il y a encore des déchets organiques dans les poubelles, enfin dans les poubelles vertes, j'entends, donc qui vont à l'enfouissement ou à l'incinérateur. Donc on pourrait déjà réduire ces déchets-là. Mais les collectivités sont en recherche d'efficacité pour traiter une masse et un volume. Et du coup, effectivement, elles vont avoir plus de difficultés à mettre en place des actions ultra-locales avec des acteurs locaux qui sont souvent d'ailleurs associatifs. Et on a quand même, même si ça évolue avec le temps, on a quand même encore une opposition entre le secteur associatif n'est pas professionnel, ce sont des associations. Voilà.
Et la ressourcerie, elle se situe exactement dans l'interstice dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire au moment où vous mettez l'objet dehors et avant que... Voilà, nous, on est là, en fait. On est en ce, voilà. Et pour une ville, ce n'est pas très facile à structurer ce moment-là. Voilà. Donc, elle n'a pas toujours compris les enjeux. Et d'ailleurs, la plupart des gens, quand ils rentrent, ils disent « Ah, vous faites du recyclage ?» Non, non, non. Enfin, nous, c'est vraiment la dernière étape. C'est pour ça que le mot réemploi, il n'est pas très connu. Et tout de suite, on dit recyclage. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand on a voulu parler à écologie aux gens, au public, on lui a parlé que de recyclage. Hein, de bien trier ses déchets, recyclage, recyclage, recyclage. Donc il a mis ça dans sa tête. Mais nous, on est vraiment bien avant les filières de recyclage. Bien avant.
Moi, je souhaitais porter une contribution quand même qui est aussi importante. Et au niveau c'est vrai, au niveau des politiques, on a un peu encore des difficultés, mais n'empêche qu'il commence à s'inscrire quand même. Et ça, c'est l'enquête et le vu que nous avons fait par rapport à notre marché, parce que nous, on a un calendrier de marché qui sont directement répertoriés pour toute l'année, parce qu'on fait un agenda. Et donc, comme on a l'autorisation d'organiser un marché une fois par mois, on a remarqué que de plus en plus, comme voilà, les gens, non seulement ils vont vers, on dirait, un besoin d'acceptation de ce qu'ils renouvellent, quelque chose qui est chez eux, par quelque chose qui coûte moins cher, puisqu'il y a des moments, parfois, vous avez un petit appareil, il suffit d'un petit vis qui manque, vous pensez que c'est fini, on ne peut plus l'utiliser. Il suffit de remettre la vis pour que ça remarche. Donc ça, on le remarque dans le marché. Pour déjà les différents marchés qui ont été organisés. Et de ce point de vue, je pense que là, la mission de sensibilisation est très importante, ce qu'on est en train de dire. Maintenant, on a des difficultés, parce que ce sont des petites associations parfois qui n'ont pas assez de moyens, comme nous avons commencé. Et le deuxième problème, c'est aussi le fait que nous n'allons pas beaucoup, beaucoup vers les plus jeunes, en fait. D'après ce que nous, on remarque. Puisque quand le bénévolat, c'est nous, on est conscient, donc c'est facile. Toi, vous faites appel, les bénévolats, ils viennent directement. Mais les plus jeunes, comme ils ne sont pas sensibilisés encore à ces... C'est vraiment une grande difficulté, je crois. C'est là où il faut viser pour l'opération de ce qu'on a tenté de faire.
Bah oui, il faut viser les scolaires. Et l'éducation nationale, il faudra qu'elle s'y mette, parce que même dans les classes, on ne trie même pas les corbeilles à papier, donc enfin la plupart des classes. Ou alors, certains élèves le font avec leurs profs, mais après, les services de propreté derrière ne trient même pas les corbeilles à papier. Donc évidemment, on est loin encore de tout ça, mais le peu qu'on fait, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et après, j'avais envie d'ajouter sur le fait que vous disiez, des fois, juste pour une vis, on jette l'appareil. Il y a quand même toute une génération qui est née dans le jetable. Hein. Bic a fait son business sur le briquet jetable, a fait son business sur le rasoir jetable. Et j'imagine qu'à l'époque, ça devait être génial et c'était une révolution. On avait la vaisselle en plastique pour pique-niquer, quel top. On avait les couches jetables qui, moi, ma maman, c'était l'année où c'est né, elle a dit « Waouh, génial, des couches jetables. Super, je vais prendre ça. » Donc, ils ont aussi un peu sauté sur le truc parce que ça a facilité aussi la vie des gens. Et maintenant, on est en train de revenir en arrière et je pense qu'on éduque nos enfants un peu différemment, mais ça prend du temps, ça saute des générations. Mais effectivement, il y a eu une grosse génération du jetable. Alors là, on n'est plus là-dedans, mais ça encore. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des gobelets en plastique, hein, qu'on se le dise. Qui vont être interdits d'ailleurs.
Excusez-moi d'être alarmiste. Sans parler de effectivement tout, toutes les nouveautés, toute la nouveauté informatique constante. Même si on sort de la génération big jetable, on est encore dans la génération internet, informatique, big data. Et si ça ne calcule pas comme ça, deux fois plus que l'année dernière, on n'a plus besoin et on jette. Même si on consomme de moins en moins de couches jetables et de big, on cède de plus en plus d'ordinateurs et de systèmes informatiques de manière générale qui sont obsolescents de génération en génération.
On n'a pas parlé de l'obsolescence programmée, mais effectivement, vous savez tous que la machine à laver qui durait 30 ans il y a 30 ans, ben elle ne dure plus que 10 ans maintenant, et puis qu'on les met systématiquement un peu en panne volontairement. Voilà. Alors là, il y a un an, la loi est passée comme quoi chaque machine à laver, par exemple, doit pouvoir avoir des pièces détachées qu'on puisse acheter séparément. Du coup, les industriels n'ont pas le choix, ils s'y mettent. Mais vous imaginez bien que les 5-6 pièces de cette machine à laver qui peuvent être changées, ben, sont des pièces assez de mauvaise qualité pour pouvoir être changées tout le temps. Donc même en faisant des lois qui essaient de détourner l'obsolescence programmée, les industriels trouvent des astuces encore pour nous faire payer encore des pièces détachées qui vont être plus, enfin, de moins bonne qualité que le reste de la machine. Donc enfin, on va y arriver, hein. Ça va être encore un peu long. Mais l'obsolescence programmée, oui, vous connaissez tous, il y a plein de téléphones portables que vous ne pouvez pas démonter. Vous ne pouvez pas les ouvrir. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas les réparer. Et dans un téléphone portable, je ne sais pas combien il y a de matières premières, mais presque 80 ou 70.
Qui sont tellement imbriquées entre elles qu'il est hors de question d'essayer de les recycler. Hein.
Ça, parce qu'en fait, vous avez dans le téléphone portable des millimètres, un petit peu d'or, un petit peu de machin. Et même si on voulait arriver à les recycler correctement, on ne pourrait pas, parce que c'est des infimes quantités. Et donc, on ne peut pas les détacher les unes des autres. Donc, tout ça va à la poubelle. Donc, il y a encore un peu de travail. On n'est plus dans le briquet-bic, mais...
C'est pour ça, moi, mon avis, le lien avec les institutions, les mairies, est quand même moins compliqué que le lien vraiment... Avec les industriels qui sont une partie ultra prenante de toute cette problématique de déchets, de surconsommation et de production de déchets, quoi.
Ah ouais, mais puisque c'est quand même... Non, c'est deux pouvoirs qui ne sont pas différents. Parce que l'entreprise, c'est quoi? L'entreprise, il est la main et qui travaille pour l'État. Puisqu'un État comprend le territoire plus ses habitants. Donc moi, en tant qu'entreprise, quand je mets une entreprise ici en place, c'est obligé que ce que j'ai fait comme travail apporte un plus X à l'État. C'est pourquoi on donne les autorisations. Que non, tu peux faire ça. Non, ça, c'est bon. Comme ça va nous permettre de retirer beaucoup d'impôts sur votre domaine. Et les patrons, vous voyez même, par exemple, que les patrons, ils ont de plus en plus l'idée de mieux vaut te payer moins cher s'il est conscient que tu peux faire 10 tâches en même temps pour un salaire. Donc, tu vois, ils préfèrent te prendre. Nous l'avons vécu. Ta formation te permet, et par ta connaissance, d'aborder une autre activité. Ah, mais c'est bien ça, c'est arrangeant. Comme ça, toi, tu fais tous les trucs. Et le patron, tu ne peux pas le poursuivre puisqu'il y a l'État. Et par rapport à toi qui es... Non, c'est un autre qui est bien. Ça, ce sont des débats qu'il faut
vivre,
peut-être pas dans
le
coup. Pour le moment, je ne sais pas que des débats qui sont intéressants. Et regardez ce qu'on a dit, par exemple, les petites mines qu'il y a dans le portable. Ça vient, tu vois, l'or, l'uranium, tout et tout. Mais quand on prend la chaîne depuis la production là-bas, déjà, c'est des enfants qui travaillent. Ici, j'ai mon portable dans la poche. Super cool, tu vois, je monte les étages, je téléphone, je peux téléphoner celui qui est dans la forêt, tout et tout. Mais ça, c'est des débats, c'est vrai, c'est écologique, mais c'est trop loin, sinon on va faire beaucoup plus de temps pour que les gens suivent la nécessité et le besoin de voir la situation telle que nous sommes maintenant. Parce que maintenant, on a un grand problème, tous. Hein. On a pris conscience qu'on pourra un jour disparaître, mais comme ça, c'est pas comme ça, je ne sais pas comment. Mais peut-être par l'eau ou par, on ne sait pas. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions qu'il y avait pour aujourd'hui. Un grand merci à toute la petite Roquette d'être venue nous parler de leur système et du système des ressourceries. Donc, on vous rappelle qu'il y a encore plusieurs événements ce week-end autour de ce week-end Oser la récup à la BPI. Et notamment à 20h, un défilé de mode d'une marque qui s'appelle Les Récupérables et qui utilise justement les textiles pour fabriquer ses collections à partir de textiles récupérés en ressourcerie. Merci à vous.
Merci.